Budget fédéral, un buffet de dépenses, une facture salée.
C'est juste des dépenses, des dépenses, des dépenses.
Notre pays a besoin des investissements.
Et 5 000 postes de fonctionnaires supprimés. Hausse importante des demandeurs d'asile venus de l'Inde.
Les violences entre les communautés qui amènent des gens à vouloir quitter le pays pour venir au Canada.
Et plus que 100 jours avant le début des Jeux olympiques de Paris, des milliers de bénévoles préparent le grand jour.
Mais on va se donner les moyens de faire une très grande cérémonie d'ouverture.
Moi, j'ai aucune excitation vis-à-vis des JO.
Des Parisiens déjà irrités par l'enjeu du transport et de la sécurité.
On avait promis que les transports seraient gratuits et y a rien qui est fait.
Bonjour, ici Mathieu Bellumeur, bienvenue au Radio-Journal. Donc, pas de grande surprise dans le budget déposé hier en fin de journée par la ministre fédérale des Finances, Chrystia Freeland. Non seulement le gouvernement avait déjà dévoilé une grande partie des nouveautés, mais en plus, le déficit évalué à 40 milliards de dollars, c'est ce que prévoyait la ministre Freeland l'automne dernier. En résumé, les dépenses sont en hausse, les revenus également, réaction de quelques contribuables.
Des annonces et des annonces. Je ne vois pas beaucoup de résultats.
C'est plus urgent d'être focusé sur les logements.
On appelle par en avant, puis on donne ça aux jeunes. C'est eux qui vont avoir à régler le problème.
Le NPD est plutôt favorable à ce budget, mais le chef Jagmeet Singh s'inquiète pour la fonction publique parce que le gouvernement entend abolir 5 000 postes de fonctionnaires d'ici 4 ans. Le chef conservateur Pierre Poilievre et le bloquiste Yves-François Blanchet, eux, vont voter contre.
Après 9 déficits, Monsieur le Président, le gouvernement est riche et le peuple est pauvre.
C'est le budget de Justin Trudeau, des libéraux et du NPD qui essaient de se gosser une bouée de sauvetage dans leur détresse électorale actuelle.
On joint notre analyste politique à Ottawa, Fanny Olivier. Alors Fanny, est-ce que c'est effectivement un budget électoraliste?
Oui, on sent poindre la prochaine bataille électorale. Chrystia Freeland en offre un peu à tout le monde, aux jeunes, aux familles. Les libéraux continuent de faire le pari que dépenser va être plus payant électoralement que de demander aux contribuables de se serrer la ceinture. Ils veulent aussi coincer le chef conservateur Pierre Poilievre en le sommant de dire ce que lui couperait comme programme s'il était élu. C'est donc un budget qui va dans la même direction que ceux des dernières années, plutôt à gauche, avec des dizaines de milliards en nouvelles dépenses et dans lequel on ne fait pas de choix difficile de compression, par exemple.
Fanny, le budget s'intitule « Une chance équitable pour chaque génération ». Est-ce que les libéraux vont réussir à gagner le cœur des plus jeunes électeurs?
Il y a encore beaucoup de travail à faire. Chrystia Freeland joue au Robin des Bois intergénérationnel. Avec l'augmentation de la taxe sur le gain en capital, elle prend aux plus riches, qui sont typiquement plus vieux, et redonne aux plus jeunes à travers divers programmes et des investissements en logement. C'est judicieux sur le plan électoral. Hein? Les milléniaux sont désormais plus nombreux au Canada que les baby-boomers. Mais ce sera peut-être pas suffisant pour renverser la vapeur. Pourquoi? Ben parce que plusieurs des mesures, notamment sur le logement, ne vont pas porter fruit avant plusieurs années. Ensuite, parce qu'il y a très peu de nouvelles mesures pour lutter contre les changements climatiques, alors que ça reste l'une des priorités des jeunes progressistes. Et enfin, parce qu'après 8 ans à Ottawa, les libéraux se battent contre l'usure du pouvoir, si bien qu'on se demande est-ce que les jeunes les écoutent encore.
Notre analyste politique à Ottawa, Fanny Olivier. Merci, Fanny.
Au revoir.
Je me tourne maintenant vers Pierre-Alexandre Bolduc à Québec. Alors, en réaction à ce budget Freeland, Pierre-Alexandre, le gouvernement Legault n'écarte pas l'idée d'augmenter à son tour l'impôt sur le gain en capital.
Oui, ça permettrait à Québec, Mathieu, de récolter des centaines de millions de dollars supplémentaires par année au moment où ses finances sont dans le rouge. Il faut savoir que depuis presque toujours, Québec a presque systématiquement appliqué un traitement fiscal identique à celui d'Ottawa à l'égard des gains en capital. Chaque fois que le fédéral a apporté un changement, le provincial a emboîté le pas. Le gain en capital, c'est le revenu tiré de la vente d'un bien qui a pris de la valeur, Mathieu, comme des actions, des chalets, des résidences secondaires ou encore des plex. Et à l'heure actuelle, on paie de l'impôt au fédéral comme au provincial sur la moitié des gains en capital. Mais dans le budget fédéral déposé hier, dès le 25 juin prochain, la portion du gain en capital qui est imposable va passer de 50 % aux deux tiers, à 66 % pour tout ce qui dépasse 250 000 $. On va écouter le ministre des Finances du Québec, Éric Girard, sur ce que la province compte faire.
C'est un impôt. Les citoyens et les entreprises n'apprécieront pas particulièrement. Alors, on va au moins prendre le temps de bien analyser avant d'annoncer notre décision.
Mathieu, selon Ottawa, ce changement sur le gain en capital devrait affecter 40 000 personnes et 300 000 sociétés au pays.
Merci, Pierre-Alexandre.
Au revoir.
Immigration maintenant. La réinstauration des visas pour les Mexicains il y a un mois et demi a ralenti le flux de demandeurs d'asile au Canada, mais le nombre total de réfugiés demeure élevé. Ce sont maintenant les Indiens qui arrivent par milliers dans les aéroports. Et une fois au pays, ils sont ensuite nombreux à se rendre clandestinement aux États-Unis. Reportage de Romain Chouet.
C'est des traces de voitures qui cherchaient un accès pour aller directement aux États-Unis. La frontière, elle est juste à côté.
André Labelle habite dans le village de Saint-Armand en Estrie.
Hier, en prenant ma petite marche dans le bois, si j'étais parti 5 minutes plus tôt, je serais tombé face à face avec 2 personnes qui s'en allaient vers les États-Unis.
Ici, à la frontière entre le Québec et les États-Unis, ce sont maintenant les ressortissants indiens qui passent en grand nombre à la frontière.
On voyait les traces de pas dans la neige. Ils ont essayé de prendre un chemin qui n'existe plus.
En mars, plus de 400 Indiens ont été arrêtés par la police américaine dans ce secteur. 7 fois plus que l'an passé, à la même époque. Une telle tendance se remarque aussi dans les aéroports canadiens. Depuis quelques semaines à Montréal, des dizaines de passagers dans les vols provenant d'Inde demandent régulièrement l'asile dès leur arrivée.
On voit en Inde une augmentation des tensions intercommunautaires, des violences, de la discrimination envers les minorités religieuses.
Selon la chercheuse Catherine Vien, les politiques du premier ministre Modi sont au cœur de ce mouvement.
Et donc, c'est ces tensions-là, donc les violences entre les communautés qui amènent des gens à vouloir quitter le pays pour venir, par exemple, au Canada.
Plus de 4000 Indiens ont demandé l'asile au Canada entre janvier et février. Un chiffre record et une tendance qui ne semble pas s'essouffler. Ici Romain Chouet, Radio-Canada, à l'aéroport de Montréal.
Ailleurs dans le monde.
Les ministres des Affaires étrangères des pays du G7 se réunissent à compter d'aujourd'hui sur l'île de Capri, en Italie. La montée des tensions au Moyen-Orient et la guerre en Ukraine sont au cœur des discussions durant cette rencontre qui doit durer 3 jours. Le ministre britannique des Affaires étrangères, David Cameron, veut d'ailleurs que le groupe impose des sanctions coordonnées à l'Iran à la suite de l'attaque contre Israël en fin de semaine dernière. Il estime qu'un message clair et sans équivoque doit être envoyé à Téhéran. Aux États-Unis, la sélection du jury se poursuit pour une 3e journée au procès de Donald Trump à New York. Les 7 premiers jurés ont été choisis hier, il en manque 11 autres. 3 femmes et 4 hommes ont ainsi obtenu le feu vert pour siéger au sein du premier jury jamais constitué pour juger un ancien président américain poursuivi au criminel. L'ex-président est accusé d'avoir falsifié des documents financiers pour dissimuler le remboursement d'un paiement à une actrice de films porno pour acheter son silence. C'est dans exactement 100 jours que seront officiellement lancés les Jeux olympiques de Paris avec la cérémonie d'ouverture le 26 juillet. La ville se transforme, la mairie, les autorités font des efforts pour transmettre leur enthousiasme aux Parisiens. Je retrouve notre correspondant à Paris, Raphaël Bouvier-Auclair. La tâche, Raphaël, demeure colossale à un peu plus de 3 mois de l'événement.
Oui, notamment pour l'organisation de cette cérémonie d'ouverture hors norme sur la Seine. C'est un événement, évidemment, qui a de grandes implications sur le plan sécuritaire. Et plus tôt cette semaine, le président français Emmanuel Macron a admis que des plans B et même C étaient prévus en cas de menace trop importante, notamment la possibilité de tenir cette cérémonie au Stade de France. N'empêche, tant le comité organisateur que la ville de Paris et que le gouvernement français assurent que tout devrait être en place pour ces Jeux qui pourront, entre autres, se dérouler grâce à l'importante contribution de milliers de bénévoles. J'en ai rencontré certains. Depuis des années, Yannick Demarteau est bénévole lors de parties amateurs de handball comme celle-ci à Ancerville, dans l'est de la France. Cet été, il vivra une toute autre expérience. C'est aux Jeux olympiques qu'il donnera de son temps.
Ça a lieu une fois tous les 100 ans, ici, en France. Et c'est de voir des grands sportifs, de voir des beaux matchs.
Une grande conférence organisée fin mars près de Paris a réuni de nombreux bénévoles parmi les 45 000 qui ont été choisis. Leur fierté s'accompagne parfois de difficultés, notamment parce qu'il n'y a pas d'aide pour se loger et qu'une nuit d'hôtel pendant les compétitions coûtera en moyenne 450 euros à Paris.
Il y a des gens qui se font remplacer parce qu'il n'y a pas de logement.
Pour le logement et les déplacements, les bénévoles doivent donc faire preuve d'ingéniosité.
Oui, par exemple, pour venir ici, il y a beaucoup de gens qui ont fait du covoiturage, il y a des gens qui vont s'aider pour trouver des logements.
L'organisation pourrait mieux les accompagner, croit le spécialiste de l'économie du sport Pierre Rondeau. D'autant qu'il souligne que ces milliers de bénévoles sont essentiels au fonctionnement de l'événement.
Donc une très grosse économie réalisée grâce à leur apport de force de travail.
Yannick Demarteau, lui, croit avoir trouvé une solution pour contourner les problèmes de logement. C'est dans sa roulotte qu'il entend passer une partie de l'été.
J'ai ce camping-car-là, donc je me suis dit, on y va, quoi.
Impossible pour cet amateur de sport de ne pas vivre cette expérience unique.